Vous écoutez l'agité du local et aujourd'hui tout semble pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Ce vendredi 2 avril, plusieurs monuments à Laval comme le viaduc, la mairie, le Châteauneuf et les jets d'eau seront illuminés en bleu pour rappeler l'importance de l'amélioration de la prise en charge de l'autisme. Et à cette occasion, on vous propose une interview de Catherine Moreau, la présidente de l'association Autisme Mayenne, elle-même maman d'un fils autiste. Et elle commence par bien définir ce qu'est ce handicap.
Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'autisme est classé dans ce qu'on appelle les TND, donc les troubles neurodéveloppementaux. Donc, on est bien dans le champ du handicap. Donc, ce n'est pas une maladie, même si ça paraît peut-être un peu négatif à dire. On est autiste et on est autiste toute sa vie, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est... ça peut être positif aussi, c'est juste le fait de l'accepter et puis après aménager tout pour que la personne soit au mieux de ses capacités et que l'environnement soit adapté. Donc, on est bien dans quelque chose qui est... qui concerne le développement du cerveau. Et donc, on ne parle pas forcément de soins parce que ce n'est pas à soigner, mais c'est des adaptations et un accompagnement personnalisé pour chaque personne autiste, puisqu'on parle aussi de spectre. Donc, c'est pour cela que vous avez toute une gamme des personnes autistes qui sont très, très différentes. Mais finalement, il y a des axes principaux qui restent pareils par rapport au diagnostic. Donc, des troubles de communication, des troubles d'interaction sociale et tout ce qui est dans le traitement de l'information sensorielle aussi.
Qu'est-ce qui peut justement alerter l'entourage? À quel moment on peut se dire « Ah, bah, peut-être que là, est-ce qu'il y a quand même des petits signes parfois qui peuvent alerter l'entourage ?»
Oui, tout à fait. Il y a des choses très, très précises puisque c'est comme ça qu'on peut avoir un diagnostic vraiment précoce. Donc, puisque je vous ai dit tout à l'heure, on est dans ces troubles sensoriels, parfois, un enfant autiste peut avoir soit être hyposensible, donc à quelque chose, ou hypersensible. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, hypo, c'est-à-dire... semble ne pas entendre des choses, des énormes bruits qui passent, insensibilité à la douleur ou à la chaleur, plein de choses comme ça, ou au contraire, à l'autre bout du à l'extrême, c'est d'être hyper sensible, donc ne pas supporter tel ou tel bruit, telle ou telle odeur. En tout cas, le traitement sensoriel est affecté et donc ça c'est souvent révélateur. Donc quand il commence à manger, ça peut vraiment être quelque chose de très compliqué, quoi. Un enfant qui refuse un aliment, ou qui demande toujours le même aliment, il faut que ça ressemble comme ça et que ça soit telle ou telle marque et on ne peut pas le duper, il sait très bien. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont compliquées à vivre pour la famille parce qu'on forcément on se dit, est-ce qu'on est juste dans un excès de caprice, mais à un moment donné, on voit bien que ce n'est pas ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour l'enfant. Après, il y a toute la partie communication. Donc, pour certains enfants autistes, il va y avoir un niveau de communication verbale qui est très, très approprié, voire au-dessus du niveau. Donc, voilà, très très développé. Et pour d'autres, voilà, il va y avoir carrément rien du tout, quoi. Voilà, donc des problèmes, voilà, ils sont non-verbales. Et voilà, donc ça c'est un autre souci. Dans la communication avec les autres, dans les interactions sociales, voilà, il y a des choses classiques, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, par exemple, un manque de contact oculaire, quoi. L'enfant ne vous regarde pas dans les yeux. Ça semble vraiment agressif pour lui, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais il y a quand même des choses, voilà, qu'on peut relever. Et puis, il y a la mise en place de stéréotypies, quoi, donc des comportements qui ont une fonction pour l'enfant, c'est pour qu'il se régule au niveau de ses émotions et tout ça. Donc, ça va être peut-être des mouvements répétitifs ou une façon de jouer qui manque beaucoup d'imagination. Donc, on va pas investir des jeux comme un autre enfant, on va juste aligner tout. Voilà, donc ce sont des choses assez classiques, voilà, mais qui peuvent être des signes d'alerte.
Et donc, une fois qu'on a repéré ces signes d'alerte, éventuellement, donc, on a fait ce diagnostic, comment ensuite l'enfant ou même l'adolescent est pris en charge une fois que ça y est, on est sûr, entre guillemets?
Alors, on va essayer de viser quelque chose qui est une prise en charge globale, quoi. On ne peut pas parler on peut pas juste dire, bon, bah, on va le suivre à l'école. Non, ça va être quelque chose à la maison, en vacances, le week-end, l'école. Enfin, ça va être toute sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Vont devoir être soumis à cette approche qu'on va avoir, c'est-à-dire de structurer déjà, parce que ça c'est très compliqué pour les personnes autistes, c'est le manque de structure. Donc on va devoir aider l'enfant en anticipant, en planifiant, en représentant, même si l'enfant est verbal, on va aussi s'appuyer beaucoup sur le visuel pour le rassurer, pour lui dire qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire ceci, à quelle heure ça va démarrer, finir, etc. Et après, si l'enfant est scolarisé, ce qui n'est pas toujours le cas, voilà, on va on espère pouvoir avoir une bonne équipe pluridisciplinaire, enfin une équipe autour de l'enfant, voilà, pour vraiment mettre en place quelque chose de cohérent. Donc, une éducation, voilà, bien structurée, adaptée à sa façon d'apprendre. Parfois, avec des prises en charge type psychomotricité, ergothérapeute pour tout ce que je vous disais tout à l'heure, tous les troubles sensoriels, orthophonie, etc. Voilà, ça dépend aussi dans quelle structure l'enfant est accueilli, s'il est à l'école, s'il est accompagné par une CESAD, donc c'est une sorte de service qui accompagne les écoles, ou s'il est carrément dans une structure dédiée, enfin voilà, vraiment spécialisée dans l'autisme.
Il y en a justement de ces structures en Mayenne.
En moyenne, voilà, nous, voilà, beaucoup de familles visent l'intégration à l'école. Donc, pour cela, ils vont monter leur dossier auprès de la MDA, donc la Maison départementale de l'autonomie, et ils vont demander rapidement que l'enfant soit accueilli avec un AESH, donc c'était anciennement les AVS. Alors, au niveau des structures, beaucoup de petits-enfants passent par le service du CAMPS. Donc, c'est un service qui diagnostique plus, pas que l'autisme, hein, mais qui diagnostique, qui oriente, voilà, les tout-petits. Il y a un nouvel service de dépistage, enfin, de diagnostic précoce, géré par la DPI 53, donc la SITP basée sur Saint-Berthevin. Il y a aussi une classe, enfin, pour le dire simplement, une classe autisme, ça s'appelle l'UEM, qui est rattachée à l'école Saint-Exupéry au Bourgny. Il y a d'autres structures qui s'appellent des SATED à Château-Gontier, Laval, et aussi une autre structure spécialisée pour les enfants autistes à Montaudin avec l'IME de l'API Nord-Mayenne. Voilà, ça c'est un peu les structures spécialisées.
Et comme vous le disiez, à ce moment-là, le rôle de l'association peut être aussi important, en tout cas, puisque justement, cette association Autisme Mayenne, elle propose, donc vous l'avez dit, des groupes fratries, elle propose aussi, j'imagine, d'autres activités ou d'autres moments d'accompagnement, d'accueil. Quels sont-ils ?
Oui, tout à fait. C'est, en tout cas, pour nous, notre histoire personnelle, c'était vraiment... une association qui nous a beaucoup aidés. D'une part parce que il y avait beaucoup de... Enfin, bon, c'est vraiment un peu une stéréotype, mais moi, pour avoir vécu des associations parentales à l'école, il y a énormément de mamans. Et voilà, c'est assez féminin. Mais à Autisme Mayenne, j'ai très, très vite pu dire à mon mari, viens, il y a plein de papas. Donc, ça, c'est déjà bien. Essentiellement, dans le CA, à l'époque, c'était pratiquement que des hommes. Donc, pour nous, c'était sympa de pouvoir y aller très rapidement en famille. Oui, donc, dans l'association n'a pas comme vocation de pourvoir à des prises en charge, forcément, ou n'a pas vocation de fonder ou monter une structure. On est vraiment dans des activités pour entourer les familles. De pouvoir sortir tous en famille, d'avoir des moments de convivialité, aussi des moments de formation. Au fil des années, on a pu développer un peu des partenariats avec différentes associations sportives et loisirs pour pouvoir offrir aux enfants et adultes touchés par l'autisme des activités. Bon, premièrement, le but, c'est d'entourer et orienter les familles. Je ne sais pas si c'est une activité, ça, mais si. C'est pouvoir recevoir les familles, voilà, discuter par téléphone, prendre rendez-vous, voir où ils en sont dans leur démarche et tout ça, les orienter un peu si on les voit en difficulté. Donc, ça, c'est déjà une sorte d'activité. Après, au niveau des partenariats, on a un partenariat très fort avec historique avec l'association Andy Cheval. Donc, c'est pour faire de l'équitation adaptée. Donc, il y en a qui pratiquent ce qu'on appelle le macathon. Donc, c'est une sorte de langue de signe simple pour les personnes avec déficience mentale. C'est un partenariat assez fort avec la piscine d'Evron, donc le jardin aquatique, dont le directeur est quelqu'un de très ouvert à l'autisme. Donc, on a des séances privées pour les familles une fois par mois, bon, hors COVID, bien sûr. Je vais juste vous parler de deux projets qui ont pu perdurer pendant le COVID, parce qu'il y a énormément de choses qui ont dû être arrêtées, y compris toutes nos rencontres entre parents, bien sûr. Mais l'association est en partenariat avec le service civique, donc notamment l'association Unicité qui est basée sur Laval. Et donc, il y a un projet Famille en harmonie. Et donc, tous les ans, nous avons quatre personnes, quatre jeunes volontaires qui font leur service civique. Donc, nous les formons. Ce ne sont pas des professionnels, mais je peux vous dire vraiment qu'ils ont vraiment une qualité dans leurs interventions et ils font vraiment un très beau travail. Et donc, pendant le deuxième confinement, ils ont eu une dérogation pour pouvoir continuer les séances qu'ils font auprès de, on a cette année, cinq ou six familles qui ont du répit, quoi. Donc, les jeunes viennent en binôme chez, soit à domicile ou ils amènent l'enfant ou le jeune ailleurs. Et pendant à peu près 2 heures par semaine, ils s'occupent d'eux. Donc, ça, c'est vraiment un très, très beau projet et c'était super de voir que ça a pu continuer malgré les confinements. Un autre projet qui a pu voir le jour pendant le confinement, c'est ce qu'on appelle un sensothèque. On a pu s'investir dans du matériel sensoriel et pédagogique spécialisé. Parfois, les familles n'osent pas s'investir dans des objets ou du matériel parce que c'est très cher et puis ça peut ne pas forcément être très utile ou l'enfant peut, après quelques mois, voilà, ça n'a plus d'utilité. Donc, on a deux personnes au sein de l'association, une psychomotricienne et une enseignante spécialisée qui ont donc sélectionner des items qui sont dans cette sorte de banque de matériaux qu'on peut prêter aux parents. Donc ça a vu le jour malgré le confinement.
Appel aux parents qui veulent les rejoindre, vous pourrez trouver toutes les infos et les coordonnées sur le site autismemayenne.fr.